Deutsche Welle. L'arbre à palabre.
Bonjour. 2 ans après la signature des accords de paix d'Alger, le Mali tente de se remettre sur les rails de la paix. Du 27 mars au 2 avril 2017, le pays a organisé une réunion dénommée Conférence d'entente nationale à laquelle ont pris part des représentants des différentes couches de la société malienne. Objectif, discuter des sources profondes des crises cycliques enregistrées par le Mali, surtout dans la région septentrionale. La rencontre est allée jusqu'à la fin, même si elle a été pratiquement boudée par certains acteurs clés. Et une de ses recommandations consiste à dialoguer avec des leaders de certains groupes djihadistes tels que le Touareg Iyad Ghali et le prédicateur Amadou Koufa. Tous les deux n'ont pas signé les accords d'Alger. Quelle paix peut donc passer par le dialogue avec ceux qui ont coupé des mains en application de la charia et attaqué des symboles de l'État ? Le Mali va-t-il troquer la paix contre sa laïcité? Comment se positionnent les partenaires extérieurs pour la stabilisation du Mali par rapport à ces nouveaux développements? Autant de questions que se posent les Maliens et qui reviennent dans cette discussion avec nos 3 invités. Moussa Sidibé, membre du CRAPES, le Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale au Mali. Monsieur Sidibé, bonjour.
Bonjour.
Nouroum Togo, un des porte-parole de l'opposition politique malienne, ex-conseiller au ministère de la Défense nationale. Monsieur Togo, bonjour.
Bonjour.
Abdoul Karim Saïdou, professeur de sciences politiques à l'université Ouagadou. Vous êtes membre également du Centre de la gouvernance démocratique. Monsieur Saïdou, bonjour.
Bonjour.
Et nous aurons aussi la contribution de Radia Achouri, directrice de la communication de la MINUSMA, la mission de l'ONU pour la stabilisation du Mali. Nous écouterons quelques interventions donc de Madame Achouri durant notre émission. Madame, Monsieur, merci à tous de nous rejoindre pour ce débat au micro Fréjus Kenom. Commençons d'abord donc par la réaction de Madame Radia Achouri, la directrice de la communication de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali par rapport à l'organisation de cette conférence d'entente nationale. Nous verrons comment l'ONU se positionne par rapport à cette grande réunion.
Bah écoutez, d'abord, nous pensons, les Nations Unies, nous pensons tout simplement que d'abord, c'est une excellente je ne dirais même pas initiative parce que c'est déjà prévu dans l'accord de paix, mais nous estimons que l'événement était très important. Bien entendu, pour nous, nous espérons que tout cet effort-là contribuera à faire avancer le processus de paix et la mise en œuvre de l'accord de paix.
Radia Achouri de la communication de la MINUSMA. J'ajoute en complément d'information qu'effectivement, l'accord d'Alger de 2015 prévoit en son article 5 que les Maliens se retrouvent entre eux durant le processus pour discuter de l'Azawad et d'autres questions qui sont des causes profondes de la crise malienne. Alors, Nouroum Togo, je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole de l'opposition politique malienne. Au début, vous avez boudé cette rencontre, mais vous avez fini par rejoindre la séance. Vous partagez le point de vue de la MINUSMA, du moins de la directrice de la communication de la MINUSMA?
Alors, comme vous le savez, dès au départ, nous, au niveau de l'opposition, on n'était pas contre la rencontre. Effectivement, c'est une très bonne chose que les Maliens se parlent entre nous-mêmes, Maliens, parce que vous le savez, ce n'est pas d'autres nationalités ou la communauté internationale qui va imposer forcément la paix. C'est aux Maliens de trouver les mécanismes, les moyens qu'il faut pour essayer de trouver la solution au problème de la crise qui a trop duré avec beaucoup de morts enregistrées.
Oui. Moussa Sidibé, vous êtes malien, vous résidez en France et vous êtes membre, je le rappelle, du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale au Mali. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'était un peu de temps perdu parce que les causes profondes de la crise malienne, on les connaît quand même. L'instabilité dans le nord du Mali, c'est depuis la période de l'indépendance du Mali.
Est-ce que ça va pouvoir aboutir à quelque chose? Moi, je n'en suis pas sûr. Et j'ai comme l'impression que le gouvernement veut faire juste une sorte de comptabilisation d'actes posés qui avaient été prévus par les accords sans faire un vrai travail de fond. Et si on ne fait pas un vrai travail de fond, ça va être un exercice qui va être vraiment un exercice de surface et qui ne va pas donner des solutions vraiment durables.
Mmh. Abdoul Karim Saïdou, politologue burkinabé, comment est-ce que vous avez observé un peu cette séance qui s'est déroulée donc à Bamako?
Oui, je pense que la conférence, je ne pense pas que l'opportunité soit quelque chose de mauvais. Du point de vue de la gouvernance, je pense que c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est s'accorder sur l'agenda et surtout mettre en œuvre les conclusions de la conférence. Parce que déjà, les accords d'Alger, il y a beaucoup de clauses qui n'ont pas fait l'objet de mettre en œuvre. Quand on révise les accords précédents, depuis les révélations des années 90, il y a beaucoup de dispositions, des accords de paix qui n'ont pas fait l'objet de mise en œuvre. Quelque part aussi parce que il me semble que le gouvernement malien n'a pas un contrôle total de l'agenda. Nous savons qu'il y a des forces extérieures telles que la France et l'Algérie qui jouent un rôle extrêmement important dans ce processus. Et de ce point de vue-là, la mise en œuvre des accords de paix, des accords d'Alger, ne relève pas seulement de la volonté du gouvernement malien.
Mmh. Oui, parce qu'on a souvent entendu quand même d'une certaine élite politique malienne que le pays se voyait imposer des choses par des mains extérieures. Donc, est-ce Nouhoum Togo, cette conférence était une façon pour les Maliens de dire « nous savons nous occuper nous-mêmes des problèmes qui se posent à nous et on n'a pas besoin de ce monitoring de l'étranger ».
Moi, je ne suis pas, en tant que responsable, je ne suis pas d'accord avec cette façon de poser le problème de façon très concrète. Parce que pour moi, une fois qu'on est responsable, on s'occupe de son pays et on a normalement la capacité de s'imposer et puis de faire respecter cette vision.
Alors, dans cette conférence, il a été question de l'Azawad, par exemple. Prenons des points clés, des points importants. Ce qui a été dit, c'était que l'Azawad, certes, correspondait à des réalités culturelles, communautaires, mais que quand on évoque Azawad, on n'évoque pas tout l'effectif de la population malienne du Septentrion, ça fait un, et de deux, que ça ne renvoyait pas à une entité politique. Moussa Sidibé, est-ce que vous croyez que sur ce point de l'Azawad, cette conférence n'a rien apporté de concret?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien revenir sur l'aspect imposition de la communauté internationale. Je serai très bref. Ce que je veux dire, c'est que personne ne peut nier que à partir du moment où il y a une intervention de la communauté internationale sur un champ de bataille comme le Mali, qu'il y a forcément des velléités à pouvoir imposer un certain modèle de gouvernance au pays. Maintenant, c'est aux responsables politiques d'être à la hauteur des enjeux, de pouvoir donner une vision et de pouvoir orienter même la communauté internationale dans sa manière de faire les choses au Mali. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au Mali. Pour l'aspect Azawad, moi je suis vraiment très étonné, que nous nous fions seulement à des dires de rebelles, à des dires des hommes politiques. Il manque encore des historiens au Mali pour nous faire un point exact sur l'Azawad, sur la base de tels rapports qu'on puisse se prononcer une bonne fois pour toutes sur cette question.
Oui, parce que la polémique, malgré cette conférence, la polémique reste entière. La preuve, il y a des leaders.
La question n'a pas été vidée parce que d'un côté, les mouvements armés veulent coûte que coûte une reconnaissance politique de l'Azawad. De l'autre côté, le gouvernement du Mali avec le reste de la société malienne veut une reconnaissance culturelle comme le Belédougou, comme le Mandé de l'Azawad. Maintenant, il y a deux visions qui se confrontent. Pour moi, pour trancher ces deux visions, il faut qu'il y ait des historiens qui se mettent à l'œuvre et qui nous fassent un rapport clair et net à partir de là, que l'opinion puisse trancher.
Nouhoum Togo, que pensez-vous des réactions qui ont émané de la coordination des mouvements de l'Azawad? Il regrettait que la question de l'Azawad n'ait pas trouvé une solution concrète.
Au niveau de l'opposition, on était sûr que le débat allait aboutir à ça et qu'il n'y aurait pas à avoir de consensus sur ce mot de l'Azawad. Mais c'est une conception aujourd'hui. On veut nous imposer ça, effectivement, mais les Maliens, à la conférence d'entente, les rapporteurs ont dit qu'on est. Et les Maliens sont tombés d'accord de ne pas reconnaître l'aspect politique, mais de reconnaître l'aspect culturel. Effectivement, aujourd'hui, si nous prenons le cas de l'Azawad, il y a comme le Belédougou, il y a comme le Sénobankas, il y a d'autres aspects de la chose. On ne peut pas reconnaître ça aujourd'hui pour avoir donc la paix.
Abdoul Karim Saïdou, est-ce que sur ce point de l'Azawad, vous croyez que c'est l'une des insuffisances de cette conférence d'entente nationale?
Bien, je pense que c'est une question très complexe. Hein. On ne peut pas traiter lors d'une conférence comme ça parce que Il y a des dimensions scientifiques, comme les autres invités l'ont dit, il va falloir faire un travail scientifique. Et il y a de la littérature en la matière, on peut revisiter. Mais c'est surtout la dimension politique qui pose problème de mon point de vue. Parce que l'idée d'Azawad sous-entend une sorte d'autonomie, une sorte d'État dans un État, ce qui aujourd'hui ne peut pas être accepté de mon point de vue, ni par le gouvernement malien, ni par les autres composantes de la société malienne. Mais il me semble que c'est une question qu'il faudra approfondir, notamment dans le cadre de la réforme de l'État. Parce que je crois que pour un pays comme le Mali, c'est la même chose pour des pays comme le Tchad, comme le Niger, comme le Soudan. Je ne pense pas qu'il soit réaliste de penser qu'on peut continuer à régenter des régions comme Kidal, par exemple, à partir de Bamako. Donc il va falloir tôt ou tard poser la question fédérale. Mais poser la question fédérale suppose aussi accepter de prendre en compte des spécificités culturelles des différentes composantes de la nation. Avoir une sorte de démocratie de type consociatif qui prend en compte les identités dans l'espace public. Nous avons malheureusement hérité d'un modèle d'État jacobin de type français qui a du mal à accepter les identités dans l'espace public. C'est pour ça que nous avons des problèmes, par exemple, avec la question de l'Azawad, avec les questions identitaires de façon générale. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la réflexion sur la prise en compte des identités dans l'espace public doit se faire aussi concomitamment avec la réflexion sur la restauration de l'État. Parce que même si on bascule vers un État fédéral, si le pouvoir fédéral, le pouvoir central, ne dispose pas des moyens, notamment au niveau de l'armée, pour sécuriser l'ensemble du territoire, il va s'indiquer que ces groupes armés-là vont continuer à assumer le désordre et à prendre en otage la paix au Mali.
Merci beaucoup. Donc, tout n'est pas fini sur cette question de l'Azawad qui risque de ressurgir comme un serpent de mer. Il y a un autre point qui va continuer de susciter la polémique, l'idée d'un dialogue avec les leaders de groupes djihadistes. Il y a le Touareg Iyad Agali, mais il y a aussi le prédicateur Amadou Koufa qui revendique donc le leadership du Front de Libération du Massina, un groupe armé qui agite le centre du Mali. Nouhoum Togo, quelle est votre réaction par rapport à cette suggestion d'aller en dialogue avec les leaders de groupes djihadistes?
Il y a des contradictions parce qu'il y a certains de nos partenaires ou des camarades de lutte comme Arena qui sont d'accord pour négocier avec Yagagali. Moi, dès au départ, en tant que parti aussi de l'opposition, le PDS, en tant que responsable politique, aussi technicien à la matière, donc je pense réellement que moi, je suis fermement opposé à ces négociations parce que la question que je me pose tous les jours, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on va négocier avec Amadou Koufa et qu'est-ce qu'on va négocier avec Yagagali? On sait très bien ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est la charia. Ce qu'ils veulent, un pays 100% islamique, donc, où ils veulent imposer comme la constitution, donc, et parle de la charia. Il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, en exploitant même de discuter avec lui, les Américains, il est sur la liste rouge des Américains. Les Français aussi cherchent Yagagali. On ne sait pas exactement là où il est. Aujourd'hui, est-ce que ce monsieur, on va aller négocier pour lui dire qu'on est d'accord que le Mali soit un pays 100% musulman? C'est ça la question.
C'est ça la question. Est-ce que Moussa Sidibé, vous êtes d'accord avec, disons, l'argument qui veut qu'on aille à ce dialogue, qui indique qu'on a discuté avec d'autres? Pourquoi pas avec ceux-ci? Pourquoi pas avec Iyad Agali? Pourquoi pas avec Amadou Koufa? Ils sont également citoyens maliens et on peut bien essayer de trouver un terrain d'entente avec eux. Est-ce que vous croyez que cet argument tient, M. Sidibé?
Il faut quand même revenir sur la base de cet argument. La base principale de cet argument, c'est que, selon une partie de l'opinion, Iyad Agali et Amadou Koufa n'ont pas remis en cause l'intégrité territoriale du Mali, et à partir de là, on peut discuter avec eux. Moi, je dis, autant l'intégrité territoriale, autant la laïcité, pour moi, c'est toutes des valeurs qui sont égales pour moi. Qu'est-ce qu'on peut aller discuter avec Amadou Koufa et avec Iyad Agali? Moi, de mon point de vue, je ne vois pas. Soit à vouloir baisser le sens de la République et puis aller discuter avec eux, et nous mettre complètement en porte-à-faux avec le reste de la communauté internationale qui nous aide dans le cadre de la sécurisation de notre pays et de son développement. Sinon, au-delà de ça, moi, je ne vois rien qu'on peut aller discuter.
Mais
ces
personnages ont été mis à l'écart jusqu'ici. Ils se sont peut-être eux-mêmes, de par leurs actions, mis à l'écart. Mais faut-il continuer comme ça? Depuis 2 ans,
oui,
il y a un accord, mais le pays est toujours instable. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un moyen pour les calmer, ces gens-là?
Ceux qui ont accepté de venir discuter avec l'État du Mali n'ont ni remis en cause l'intégrité, ni remis en cause la laïcité. Tant que Iyad Agali et Amadou Koufa continuent à se prévaloir des valeurs qui remettent en cause la laïcité du Mali, moi je ne vois pas qu'est-ce que l'État du Mali peut se permettre d'aller discuter avec ces gens-là. Moi, c'est mon point de vue.
Oui, vous avez indiqué tout à l'heure dans votre intervention, vous avez craint que les partenaires extérieurs du Mali soient un peu embarrassés par rapport à une telle démarche d'aller discuter avec les leaders djihadistes. Nous avons posé la question à Radia Achouri, directrice de la communication de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Mali. Écoutez sa réponse.
La MINUSMA interagit énormément avec les forces vives de la nation malienne, avec toute personne qui veut être impliquée constructivement dans ce chantier qui est de construire la paix et rétablir l'autorité de l'État malien sur tout le territoire malien, tel que défini, bien entendu, dans la constitution malienne, un État uni, un État laïque et un État souverain.
Donc, en clair, l'ONU, la MINUSMA, n'a rien contre que l'État malien entre en négociation avec Iyad Agali et Amadou Koufa.
Écoutez, la question ne se pose pas pour nous. La question n'a pas été discutée ou n'est pas posée directement aux Nations Unies. Quand on arrivera à cette étape, on se prononcera. Depuis la signature de l'accord de paix, les revendications séparatistes, peut-être elles prédataient en tant que revendication officielle de certains groupements, si vous voulez, armés ou autres maliens. Mais depuis la signature de l'accord de paix, tout le monde, si vous regardez l'accord de paix de très près, est engagé à préserver l'unité territoriale et l'intégrité territoriale du Mali. Donc, c'est dans ce cadre, c'est ça notre cadre d'opération et d'interaction avec tout un chacun, bien entendu. Et nous soutenons les efforts qui visent, en fait, la réalisation de cet objectif.
Alors, Abdoul Karim Saïdou, comment est-ce que vous interprétez la réaction de Radia Achouri par rapport donc, à la question du dialogue, de la collaboration avec les leaders de groupes djihadistes?
Je pense qu'il y a une ambiguïté dans les discours. C'est pour ça qu'au début de mon propos, je parlais des acteurs internationaux. Parce que je ne vois pas à quoi peut bien aboutir un dialogue avec les mouvements terroristes, avec Iyad et puis Koufa. Lorsqu'on sait que ces acteurs sont liés à des mouvements terroristes au plan international, et qu'on sait que ces mouvements-là ont une stratégie internationale, ont des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs cardinales de la République.
Oui, mais est-ce que vous sentez que la stratégie aussi de l'ONU, c'est de faire avec ça, c'est de favoriser ce dialogue si tant est qu'il peut conduire à la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali?
Oui, c'est ce que je crois comprendre, mais il y a une ambiguïté dans les discours. Alors qu'il me semble qu'au plan international, la règle, quand même, c'est de dire qu'on ne négocie pas avec des terroristes, même si certains États le font de façon souterraine. Mais pour moi, c'est une règle qui est sacrée. Même si on estime que pendant quelques temps, ça va peut-être apaiser la situation, je pense que ça serait un dangereux précédent. Parce que ça va ouvrir une porte à Pandore et à l'avenir, on ne pourra pas contrôler, n'est-ce pas, ce processus de prolifération des mouvements terroristes. Ça ne fait pas sens de mon point de vue par rapport aux engagements du Mali vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa population, mais aussi par rapport aux engagements du Mali sur le plan communautaire, dans le cadre de G5 Sahel, de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Je ne comprends pas pourquoi des acteurs internationaux qui refusent que leur pays, que leur gouvernement négocie avec les terroristes puisse se recommander au Mali aujourd'hui de négocier avec les terroristes. Parce qu'il y a une ambiguïté de ce point de vue-là.
Oui, vous indexez les partenaires extérieurs, mais on a remarqué quand même qu'au plan interne, il y a des acteurs qui constituent un peu la cheville ouvrière. Hein, quand on parle de dialogue avec Yad Rally et Amadou Koufa, alors Nouhoum Togo, il y a Mahmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique, qui a souvent d'ailleurs défendu cette idée d'aller dialoguer avec Yad Rally. Il a même entrepris une sorte de médiation il y a quelque temps. Comment est-ce que vous appréciez cet activisme de Mahmoud Diko?
La déclaration de la communauté internationale est très ambiguë. Madame nous parle de la laïcité. De l'autre côté, ils veulent un pays carrément islamique. Alors, donc, elle ne répond pas. Donc, vous avez voulu préciser la question, elle a fait des détours, elle n'a pas voulu répondre à la question. C'est ça, la diplomatie aussi, on comprend. C'est vrai que nous sommes à 80% des musulmans, mais la laïcité, on tient à ça, parce que nous avons des chrétiens, des bons chrétiens, nous n'avons pas de problème avec eux, les amis. Ceux qui n'ont pas d'autre religion, ceux qui n'ont pas de religion, ils sont là, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous condamnons ce qui s'est passé avec des gens qui ont été lapidés jusqu'à la mort, des gens qu'on a coupé la main parce qu'ils ont volé, donc ça pose problème.
Moussa Sidibé, Monsieur Nouhoum Togo semble donc redouter une application rigoriste des directives islamiques, mais ce n'est pas aujourd'hui que l'on constate que les acteurs musulmans, les leaders musulmans sont un peu influents au Mali. Il y a eu des actions qu'ils ont menées, des projets de loi qui ont dû être rétoqués ou bien carrément rangés dans les tiroirs sur l'influence des leaders religieux. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être réaliste et dire « nous acceptons une application un peu rigoriste, nous cédons un peu aux revendications de ces leaders djihadistes et nous préservons en contrepartie notre souveraineté territoriale, notre unicité territoriale ». Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'aller dans ce sens, M. Sidibé ?
Mais c'est-à-dire, entre l'unicité territoriale et la laïcité, qu'est-ce qui vaut le plus? Pour moi, il n'y a pas à abandonner une valeur au profit d'une autre. Premier aspect. Second aspect, j'ai comme l'impression que dans le cadre de la rédaction des conclusions de la conférence d'entente qui a abouti forcément à cette proposition d'aller discuter, il y a une certaine prise en compte consensuelle de toutes les propositions qui ont été faites par tous les membres de la commission. J'en conviens que dans ce cadre-là, M. Mahmoud Diko a dû glisser l'idée d'aller discuter avec Yad Agali. Mais ne nous voilons pas la face, nous sommes dans une république. Une république, c'est la laïcité. À partir du moment où il y a la laïcité, on ne peut pas se permettre d'aller discuter avec des islamistes qui ont pris des armes pour appliquer la charia. Après, nous pouvons poser des questions. Pourquoi les leaders religieux ont un certain poids politique aujourd'hui dans le pays? Je dis que, quelque part, les acteurs politiques n'ont pas forcément été à la hauteur des attentes du peuple, qui fait que les leaders religieux commencent à prendre de l'importance sur le champ religieux, ce qui aboutit forcément au fait qu'on cède un peu le terrain par rapport à cet aspect de notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? De mon point de vue, on peut tenir compte de certains aspects de la vie des musulmans dans la mise en œuvre des lois, mais ce n'est pas une raison d'aller discuter avec des tenants de charia pour venir imposer la charia à un pays. Non, la population malienne n'est pas prête à accepter une application de la charia sur toutes les années du territoire. Mmh. À partir de là, pourquoi discuter avec des gens qui tiennent comme loi seule la charia? Je ne vois pas.
Voilà. Mais je crois que la prochaine étape, maintenant, après cette conférence d'entente nationale, c'est la vulgarisation des recommandations pour profiter aussi, pour recueillir des avis de la population à la base et éventuellement aussi d'autres recommandations. Juste pour clarifier les choses au niveau de nos auditeurs, qu'ils ne pensent pas que l'idée du dialogue est déjà une idée acceptée et confirmée. Alors, nous terminons avec M. Abdoulkarim Saïd. Que faut-il faire? Demandait tout à l'heure Moussa Sidibé. Bientôt prend fin le mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce qu'il voudra quand même laisser dans son bilan l'idée qu'il aura quand même contribué à ramener son pays sur la voie de la paix?
Ben, je pense qu'il y a quand même un goût d'inachevé, parce que je ne pense pas qu'on ait fait des pas qualitatifs, des pas importants. dans la consolidation de la paix et de la sécurité au Mali. Il y a du chemin, il y a du chemin à faire, il y a des actes qui ont été posés qu'il va falloir consolider. Et ça, c'est une question extrêmement sensible, extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas un seul mandat que le président Idrissa peut la régler. Je pense que les autres présidents qui vont venir après vont aussi s'attaquer à cette question parce que ça fait depuis les années 60 qu'on est là-dessus. Donc, il ne faut pas penser que d'ici un mandat, deux mandats, on peut régler ça de façon définitive.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce débat Abrapalabre consacré au Mali et notamment à la conférence d'entente nationale et ses recommandations, certaines de ses principales recommandations. Nous étions avec Noum Togo, un des porte-parole de l'opposition politique malienne et ex-conseiller au ministère de la Défense nationale, Moussa Sidibé, membre du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale au Mali, et Abdoul Karim Saïdou, politologue et chercheur burkinabé. Nous avions eu également des interventions de Radia Achouri, la directrice de la communication de la MINUSMA. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine pour une autre édition de Labre à Palabre.